Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
Courir, nager, pédaler, frapper fort.
Le but, c'est marqué. Et c'est marqué.
L'équipe de France est championne du monde. Oh putain.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département. Et aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, alors on vous propose un programme spécial, deux sujets, deux parties. En deuxième partie d'émission, on parlera de football. Ce soir, l'équipe de France affronte les Pays-Bas pour son deuxième match dans cet Euro 2024. Alors Kylian Mbappé jouera-t-il? Quelles sont les difficultés et qualités à venir face à cette équipe hollandaise? On en parle tout à l'heure avec Merlin Gravelot et Brian Bellardan. Mais avant ça, pour commencer, place à notre première partie. On va parler de triathlon et je laisse le micro à Brian Bellardan.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, c'est moi, Brian Bellardan, qui présente cette première partie d'émission. Nous allons parler de la 35e édition du triathlon au Mans, un événement qui a lieu les 6 et 7 juillet. Avec notre invité, on va parler du programme, du circuit et des différentes catégories. Et pour en parler, on reçoit Joël Voisin, responsable de l'organisation de cet événement, qui est avec nous en studio. Bonjour Joël Voisin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'organisation du triathlon au Mans, qui fête sa 35e édition. Avant de parler du programme de l'événement, présentez-nous les trois disciplines que combine le triathlon.
Le triathlon, c'est un enchaînement de trois disciplines, natation, vélo, course à pied, forcément dans le même temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un jour la course à pied et la natation, donc tout est réuni avec ce qu'on appelle les transitions entre natation, vélo et vélo, course à pied.
On a d'ailleurs plusieurs types d'épreuves en triathlon, le triathlon XS, S, M et même olympique. Décrivez-nous leurs différences.
Alors déjà, on a les courses jeunes, hein, c'est de 8 ans à 13 ans. Après, on a les courses XS individuelles, c'est-à-dire que c'est des petites distances, ça s'adresse à des gens qui veulent découvrir le triathlon. C'est relativement court, 350 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Donc c'est abordable à plein de sportifs non licenciés FF3, c'est ce qu'on a souvent le cas. Et puis après, il y a aussi, ça s'enchaîne avec des relais ou même de l'aquathlon, comme nous on propose cette année entre les courses jeunes et les courses XS du samedi après-midi.
Maintenant qu'on a présenté dans les grandes lignes le triathlon, si on s'intéresse maintenant au programme de l'événement, quel sera le programme ?
Comme je disais à l'instant, c'est le samedi, c'est réservé plutôt à des non-licenciés qui veulent découvrir le triathlon. Je pense que les Jeux Olympiques, si nos Français réussissent, ça sera porteur. Après, le dimanche, là, ça s'adresse plus à des licenciés. Le dimanche matin, c'est une distance S. Donc déjà, on est sur des 750 mètres de natation, 20 en vélo et 5 à pied. Et l'après-midi, on double ce qu'on appelle le triathlon olympique. C'est pour ça, cette année, avec les Jeux Olympiques, je l'ai appelé triathlon. Triathlon olympique 2024. Donc là, oui, effectivement, il faut être sportif. À ma grande surprise, encore cette année, on a beaucoup de non-licenciés de la FF3. Donc ça veut dire que c'est sans doute des sportifs qui viennent d'autres sports, que leur saison est finie et ils continuent à se faire plaisir en découvrant le triathlon, quoi.
Combien de participants sont attendus pour cette 35e édition ?
Eh bien, tous les ans, on avait 800. L'an dernier, on a battu un record. Il y avait 1096 inscrits. Et cette année, on est déjà rendu à 850 ce midi, je crois. Et l'objectif, c'est d'attendre les 1100 pour essayer au moins de légaliser.
Parmi ces trois épreuves, le vélo, la course à pied et la natation, est-ce qu'il y en a une qui est considérée comme étant plus difficile que les autres ou toutes se valent ?
Déjà, le handicap, souvent, pour les gens qui veulent venir au triathlon, moi, j'en étais le premier, c'est la natation, quoi. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de personnes peuvent nager, sauf que c'est la vitesse. Et la natation, ça s'apprend très jeune, quoi. Donc, il faut que les enfants, l'école ou les clubs les accueillent pour les développer. Et après, le vélo, je dirais, c'est un peu accessible à tout le monde. Normalement, on sait faire du vélo. C'est une discipline difficile parce que faut toujours appuyer sur les pédales et c'est vraiment quelque chose de particulier. La course à pied, bon, je crois que là où on fait le triathlon, l'arche de la nature, on voit suffisamment de gens courir. Donc après, il suffit de juste courir, de savoir enchaîner et de surtout de bien choisir sa distance, quoi.
Quels sont les enjeux de cet événement, mettre en lumière ce sport ?
Oui, c'est le mettre en lumière effectivement parce que bon, ça nous donne une vitrine sur la saison à venir avec les relicences en septembre. Essayer de faire venir des jeunes, beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on fait les courses jeunes. Et puis, c'est aussi un support pour le club pour faire plein d'autres fonds, pour un peu financer le club, quoi. Donc, quand ça marche bien, bien sûr.
Alors, vous avez dit à l'instant que vous allez organiser le triathlon olympique. Il faut compter à peu près combien de temps pour finir ce triathlon ?
Eh bien, sur le parcours qu'on a, les meilleurs mettent une 59, 2 ou 2,01, ça dépend des gens qui sont là. Comme il y a les Jeux Olympiques, on avait l'habitude de recevoir beaucoup de monde de Poissy avec des têtes d'affiches. Bon là, effectivement, ils seront sans doute pas là. On en a un ou deux, mais après, de 2h à 3h30, parce qu'il y en a qui courent, qui nagent pas bien, il y en a qui, le vélo c'est plus difficile, l'autre là, il faut enchaîner la course à pied, c'est 10 km, donc ça change un peu la donne. Mais bon, c'est abordable à plein de gens qui sont sportifs quand même.
Et comment on se prépare justement physiquement à une épreuve comme celle-ci ?
Ça veut dire qu'il faut... Alors, on va prendre un lambda moyen, parce que autrement, on ne va pas comparer des gens qui sont de sportifs quasiment de haut niveau ou de haut niveau. Mais oui, c'est l'hiver, faire deux séances de natation. Dès le printemps, janvier, février, c'est recommencer le vélo et faire au moins une sortie. Et puis la course à pied, c'est une à deux fois, c'est ce qui est bien. Après, on n'a pas besoin de faire des distances d'entraînement très longues. Alors après, l'avantage, c'est dans le club. Par exemple, nous, au club Le Mans Triathlon, les gens qui veulent nager, il y a une séance de natation par jour. Donc ça, c'est porteur, quoi.
Et vous le commencez en plus dès janvier-février, donc il faut
6-7 commence mois. La rentrée sportive, comme beaucoup de clubs, les entraînements reprennent en septembre, quoi.
Donc il faut quasiment pratiquement un an de préparation si on veut performer.
Ouais. Si on veut être en 2h30, oui, il faut... Après, il y a l'âge, il y a les conditions physiques, il y a l'objectif, hein, tout simplement aussi.
Et mentalement, comment on s'y prépare ? C'est forcément propre à chacun, mais est-ce qu'il y a des clubs de triathlon qui ont... une technique ?
Nous, on a la chance d'avoir plusieurs entraîneurs et l'an prochain, ça sera encore amélioré avec un entraîneur qui va prendre complètement en charge le staff des entraîneurs à la fois bénévoles et rémunérés. Et oui, il faut une base arrière de gens disponibles pour définir les objectifs, quoi. Donc,
Et comment on se sent physiquement à la fin d'un triathlon, après avoir sollicité tout le corps ? Vous avez dit qu'il faut parfois plus de 2h30 pour finir.
La ligne d'arrivée, c'est toujours le bonheur, parce qu'elle n'est pas loin, on la voit à 100 mètres. On est bien, on est satisfait. Parfois un peu déçu parce qu'on pensait faire une minute de moins, mais qu'est-ce que ça a d'importance dans la vie, sauf si on est le second. Mais c'est un vrai moment de joie, moi, pour l'avoir vécu sur des longues distances. C'est assez éphémère, hein, parce que en fait, je pense que c'est comme tous les sportifs, quand on franchit la ligne d'arrivée, il y a la joie. Et après, selon la difficulté, je ne le referai pas, mais une demi-heure après, c'est fini. Tout le monde parle de se réinscrire.
Et vous l'avez déjà gagné, le triathlon ?
Non, jamais gagné.
C'est quoi votre meilleure place au classement ?
Sur le Mans, je ne sais plus, mais meilleur temps sur Ironman, c'est 11h06. Voilà.
Et est-ce que c'est aussi un événement qui va permettre de mettre en lumière les clubs de triathlon qui existent aussi en Sarthe ?
Oui. Il y a 4 clubs de triathlon, Sablé, Changé, La Ferté, Le Mans, Alonne. Donc, eux, ils sont présents. Ça apporte beaucoup parce que par leur présence, ils drainent forcément des jeunes, ils drainent des concurrents. C'est porteur pour tout le monde, je pense, tout simplement. Et l'avantage de Le Mans, c'est qu'on est à l'arche de la nature, on est un triathlon quasi nature, on est aux portes de la ville et on fait ça 100 mètres, on est dans les bois, quoi. C'est extraordinaire.
Est-ce qu'il y a un âge minimum requis pour participer au triathlon avec les conditions physiques que cela demande ?
Les plus jeunes, on les accueille à 8 ans. Après, c'est forcément des petites distances, hein, c'est 50 mètres de natation, mais ils apprennent à bien nager, ils apprennent à monter bien le vélo, c'est du VTT. Et puis après, au fur et à mesure, jusqu'à ce que les gens puissent courir, il n'y a pas de limite. Moi, je suis V7, donc il peut y en avoir après.
Et sur un triathlon olympique, on peut avoir des vétérans
Ah oui, il y a des gens qui ont plus de 60 ans, qui galopent encore. Mais c'est un sport qui n'est pas traumatisant, hormis la course à pied, bien sûr. Ça ne pose pas de problème. On a plein de gens qui sont vétérans, qui sont à plus de la soixantaine. Il y en a qui commencent le triathlon à 40 ans, quoi, parce qu'ils ont fait autre chose et qu'ils veulent découvrir autre chose.
Quelle a été l'édition la plus marquante selon vous ?
Je vais rester sur mon souvenir proche, c'est l'an dernier, parce que je ne pensais pas avoir autant d'inscrits sur une épreuve comme ça. Accueillir 1100 triathlètes, il y avait très peu de gens non partants. C'est une marée humaine, quoi. C'est impressionnant. Quoi. Oui. Moi, pour avoir fait des grandes épreuves où il y a beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur, parce que les bénévoles sont contents, tout le monde est content.
Et quelles sont les informations pratiques à savoir et où peut-on se renseigner si l'on souhaite participer au triathlon?
Il suffit d'aller juste sur le site du club, hein, lemantriathlon.fr, et puis cliquer sur la page Triathlon du Mans, et là vous allez trouver tous les documents nécessaires, le bouton d'inscription. On a beaucoup de non-licenciés, parce que maintenant la FFTRI a accepté, a mis en place qu'il n'y a plus besoin de certificat médical. Donc en ligne, vous répondez à un questionnaire de santé, et si vous avez coché toutes les bonnes cases, vous payez et puis vous êtes inscrit, quoi. C'est formidable, ça va beaucoup plus vite que les années passées. Ce qui bloquait, c'était le certificat médical. Alors après, j'ai quand même un peu de, pas un doute, mais je me dis, vu le nombre de non-licenciés, j'espère que tout le monde a bien compris ce que c'était que le triathlon.
Eh bien, merci beaucoup Joël Voisin.
Merci à vous tous.
D'avoir répondu à notre invitation, et à bientôt sur les antennes de Radio Alpa.
Voilà, il est l'heure de se pencher vers la deuxième partie de notre émission Sport en Sarthe. On est toujours avec Brian Bellardan. Rebonjour.
Bonjour Robin.
Et on accueille également Merlin Gravelot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans cette deuxième partie d'émission, petite surprise, on va parler de football. On va quitter pour une fois exceptionnellement notre chère Sarthe exceptionnelle. Et on s'envole pour l'Allemagne avec l'Euro 2024. On va parler des Bleus, du capitaine Mbappé et des matchs de ce week-end. Ce soir, c'est France-Pays-Bas, le deuxième match des Bleus dans cet Euro après la victoire 1-0 contre l'Autriche. Avant de se pencher un peu sur les Bleus, parlons d'abord de notre adversaire du jour, les Oranges, comme on les appelle habituellement. Merlin, tu nous fais un focus sur nos adversaires ce soir et tu reviens sur leur dernier match contre la Pologne, remporté 2-1 le week-end dernier.
Oui, les Pays-Bas ont livré une bonne prestation face à la Pologne, où ils s'imposent 2-1 avec un but de Gakpo pour égaliser et de Weghorst pour passer devant. Les Oranges ont fait 21 tirs, mais seulement 4 de cadrés. Ils ont eu un bon contrôle sur la possession et une très bonne qualité de passe. Ils ont également une défense solide avec De Vrij qui fait un très bon match, mais moins de qualité individuelle par rapport à l'équipe de France, mais quelques-unes quand même. Depay, même s'il est moins décisif en club, il reste plutôt bon en sélection et peut-être très décisif dans les moments clés. Van Dijk qui fait encore une saison solide avec Liverpool et il est patron de la défense hollandaise. Ou encore Gakpo qui a été élu homme du match pour le Pays-Bas. Contre la Pologne, pardon, où il a été très bon. Il faudra faire attention aux joueurs comme Wout Weghorst, qui peuvent être très dangereux en rentrant dans le jeu, comme contre la Pologne, où il a marqué le but de la victoire pour les Pays-Bas. Mais le manque de lucidité en attaque des Hollandais pourra porter préjudice, surtout face à une équipe de France nettement supérieure de celle face à la Pologne.
Wout Weghorst, c'est toujours difficile de prononcer les noms des joueurs hollandais. Alors, on a parlé des Pays-Bas. Qu'en est-il de l'équipe de France, Merlin ?
Eh bien, du côté français, on a eu le droit à un match pas très rassurant au niveau de l'attaque face à l'Autriche. En effet, les Bleus ont aussi un gros manque de lucidité, avec seulement 3 tirs cadrés sur 14, soit environ 21%, mais une bonne qualité de passe et une bonne défense avec Koundé ou Pamecano ou encore Saliba qui ont fait un bon match. Les milieux de terrain ont été excellents, Kanté et Rabiot ont fait un très gros match. Le milieu d'Alitiad a fait un très bon match, il a été nommé homme du match, qui a rassuré et affirmé donc le fait qu'il devait devenir titulaire presque indispensable. Il était partout, en attaque, en défense, il faisait des récupérations excellentes et de très bonnes passes. On ne pouvait pas espérer mieux du joueur qui a conservé son talent, malgré le fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite. Comme dit à l'instant, Rabiot a fait un très bon match. Il était omniprésent au milieu de terrain, il a porté une bonne contribution défensive, il a fait des courses rapides et il était toujours présent à la relance. Il pourrait être très utile face aux Pays-Bas. Du côté de l'attaque, Antoine Griezmann a fait le job malgré le défi physique imposé par les Autrichiens. Il devra en plus assumer le rôle de capitaine pour les prochains matchs de poule après la fracture au nez de Mbappé. Je vois personnellement un match assez serré, mais avec un avantage pour la France. Avec la qualité défensive des deux formations, les attaquants devront faire face à des grands défenseurs robustes. Je partirai pour une victoire de l'équipe de France, 2-0, un but de Giroud et de Griezmann.
Un petit pronostic tiens, pour terminer chronique. Merci Merlin. Brian, ton regard là-dessus sur ce match face aux Pays-Bas, est-ce que c'est un match piège, comme on aime souvent le dire, comme on le disait face à l'Autriche, ou simplement une rencontre qui promet d'être la plus difficile et on s'y attendait depuis des mois de toute façon?
C'est un match piège parce que ce match est le plus qu'important, puisque le vainqueur sera quasiment assuré de terminer premier de son groupe.
Ouais.
Et on sait au combien c'est important de terminer premier de son groupe dans un Euro qui est très disputé. Mais je pense que au niveau... qualité technique, ça va être un match très différent parce que l'Autriche a posé beaucoup de problèmes aux Bleus sur le plan physique avec beaucoup d'engagement et on l'a vu au niveau des statistiques puisqu'ils ont commis plus de 18 fautes dont 5 cartons jaunes. Et de leur côté, les Pays-Bas ils s'appuient beaucoup plus sur la qualité technique, de la finesse plutôt que des joueurs avec des profils très robustes et gaillards. Donc ça va être un match très différent. Et puis je pense que l'Autriche, s'est fait une frayeur contre l'équipe de France puisque Mbappé est le joueur star de l'équipe de France, voire même de cet Euro. Et s'il est absent ce soir contre les Pays-Bas, on peut avoir une équipe des Pays-Bas qui vont au contraire jouer avec une défense un peu plus haute, et avoir moins de retenue face aux Bleus. Donc voilà.
Oui, Mbappé jouera pas. Est-ce que le capitaine sera titulaire ce soir? On ne sait pas, on le saura. Alors on se parle d'ici quelques minutes probablement. La tendance serait peut-être plutôt à ce qu'Mbappé soit dans le groupe, sur le banc, pour peut-être rentrer si l'équipe de France est en difficulté. On verra, est-ce que c'est aujourd'hui vraiment, finalement, c'est peut-être l'occasion de montrer que les Bleus peuvent essayer parfois de se passer de Kylian Mbappé le temps de quelques minutes et de montrer que l'équipe ne tourne pas forcément uniquement autour du profil du capitaine des Bleus?
Totalement, c'est montrer qu'il n'y a pas une Mbappé dépendance, ce que beaucoup ont dit lors de la Coupe du Monde 2022. Là aujourd'hui, tu as l'adversaire le plus fort de ta poule ce soir. Et si tu arrives à battre les Hollandais sans Kylian Mbappé, ce sera un très beau message.
Voilà, pour les supporters. Mais bon, on attend quand même, on espère quand même que la star sera de retour.
Évidemment.
Merlin, ton regard là-dessus, est-ce que aussi on peut se passer de Kylian Mbappé ou est-ce que effectivement on peut prendre le risque de le faire jouer ce soir, même si on se met en difficulté et qu'il y a un match très important avec la Pologne qui arrive lundi soir?
Moi, personnellement, je pense que je ne le ferai pas jouer, même si on est en difficulté, parce que ce serait prendre le risque de le blesser à nouveau et du coup de s'en priver pour tout le reste de la compétition ou pour quelques matchs, mais c'est quand même assez compliqué parce que c'est un bon joueur, il est important pour l'équipe de France. Après, c'est vrai que je pense que ça sera pas mal aussi de jouer sans lui pour voir un peu ce que l'équipe de France vaut.
Il y aura le match contre la Pologne qui arrivera, on dira peut-être un mot là-dessus dans quelques instants. Est-ce que finalement le problème des Pays-Bas, leur problème, et qui pourrait être un avantage pour l'équipe de France, c'est que cette équipe, même si ça va mieux depuis 4-5 ans, on le voit quand même, il y a un passage à vide à la fin de la génération Robben, est-ce que cette équipe manque aussi finalement d'un leader sur le terrain, de joueurs qui sont à leur poste, top 4, top 5, notamment sur le point de vue offensif?
Oui, déjà tu perds ta pièce maîtresse dans l'entrejeu qui est Frenkie de Jong, ouais, qui est blessé. Ils l'ont remplacé pas du tout numériquement puisqu'ils ont appelé un latéral de métier qui est Jan Madsen du Borussia Dortmund. Mais aujourd'hui, les Pays-Bas, ça reste une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux et on l'a vu dans leur championnat avec le PSV Eindhoven, même si l'Ajax Amsterdam s'est écrasé cette saison. Mais tu as de vrais joueurs qui jouent dans leur championnat respectif qui est l'Eredivisie au milieu de terrain. Donc ça reste une véritable bonne équipe, les Pays-Bas, et ils ont toujours eu, même dans les années 70 et années 2010, comme tu l'as mentionné avec Robben, des joueurs de ballon et des joueurs de grande classe mondiale qui, oui, pour moi, sont des joueurs top 4.
C'est une équipe jeune d'ailleurs, on a Devrir aujourd'hui qui a le rôle de leader, de capitaine, qui a plus de 30 ans, mais ça reste une équipe qui, aux alentours de 25 ans de moyenne d'âge environ, qui est plutôt jeune, donc qui peut se développer. Pour revenir sur l'équipe de France, Merlin, tu en parlais dans ta chronique, les Bleus ont beaucoup tenté contre l'Autriche, ils ont été offensivement peut-être assez rassurants, mais ils ont aussi beaucoup raté. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être à surveiller chez les Bleus, parce qu'on a quand même une équipe de France qui a beaucoup vendangé, qui a raté des choses un peu... immanquable parfois. Il y a deux occasions de Kylian Mbappé, il y a Olivier Giroud tout en fin de match, Marcus Thuram. Est-ce que si on tombe sur une équipe défensive beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, et surtout, parce que l'Autriche a quand même relativement peu tenté, s'est procuré très très peu d'occasions lundi soir, face à une équipe plus efficace, est-ce que ça ne peut pas aussi être un point négatif chez l'équipe de France, et surtout quelque chose à surveiller ? Brian ou Merlin ?
Moi oui, je pense qu'il faut surveiller ça, parce que c'est quand même dangereux. Enfin, si on n'arrive pas à mettre deux buts, ça va être compliqué pour la suite de compétition. Mais après, oui, je pense que de toute manière, l'équipe de France va arriver en maître, parce qu'on a des joueurs de bonne qualité pour ça. Il y a Mbappé, même si là, il est blessé. Mais il faut rappeler qu'on a aussi Giroud, qui a marqué pas mal de buts cette saison. Il y a Thuram aussi, qui a marqué quelques buts.
Avec l'Inter Milan, effectivement, qui est champion d'Italie.
Oui. Donc moi, je pense qu'il faut surveiller ça, mais que ça va s'arranger.
Brian, est-ce que c'était un défaut de concentration, entre guillemets, contre l'Autriche, ou c'est quelque chose qu'on peut rectifier facilement ?
C'est le premier match d'ouverture. La France, par exemple, à la Coupe du Monde 2022, gagne 4-1 contre l'Australie, mais sur le premier quart d'heure, voire même la première demi-heure, c'est assez compliqué. Et il faut toujours... c'est toujours compliqué de rentrer dans sa compétition. Là, je pense que ce soir, ça risque d'être un match assez ouvert. Comme je l'ai dit, les Pays-Bas ne vont pas craindre le Mbappé, puisque normalement, il ne sera pas là. Bon, il sera normalement sur le banc. Et de leur côté, on a vu que dans la presse, ça annonce que Deschamps calquerait la compo qu'il avait en 2018 sur le plan offensif, c'est-à-dire que Matuidi, qui évoluait au poste de milieu gauche en effectuant beaucoup de tâches défensives, oui. Ce soir, ce serait Rabiot qui prendrait ce poste. Donc je pense que ce sera un match ouvert et... Moi, personnellement, si je dois mouiller sur un pronostic, moi, je vois bien un match nul un partout ou alors 2-2.
Et il y aura le match contre la Pologne qui arrivera donc lundi soir, lundi à 18h, le coup d'envoi. Là aussi, donc, on a Pologne-Autriche en ce moment. Est-ce que c'est un adversaire qui a le retour de Lewandowski, hein, d'ailleurs, qui est de retour ? Un adversaire dont il faut se méfier, parce que n'oublions pas que la Pologne est quand même très, très décevante à chaque rendez-vous. Il y a eu l'Euro 2021, il y a eu l'Euro 2016, où elle sort... Après un joli parcours en quart contre le Portugal, mais c'est tout. Hein. Il y a la Coupe du Monde 2018, on ne retrouve pas du tout cette équipe. La Coupe du Monde 2022, les Bleus s'en souviennent, c'est une équipe assez faible qui se présente face à l'équipe de France. Alors là aussi, est-ce que c'est cadeau de jouer cette équipe de Pologne à la dernière journée ? Ou alors c'est absolument un match piège dont il faut se méfier et ne pas faire tourner pour Didier Deschamps ?
Je pense que je n'irai pas non plus jusqu'au match piège, mais ce n'est pas non plus un cadeau. C'est un match où il faudra faire attention, il faudra rester attentif, parce qu'ils ont quand même une équipe, certes assez faible, mais avec de bons joueurs comme le gardien Szczęsny ou encore Lewandowski qui va revenir, mais il faudra faire attention.
Oui,
moi, je rejoins ce qu'a dit Merlin. Ce sera un match, je pense, comme on doit l'aborder face à l'Autriche lundi. C'est pas un match piège, mais ça reste une équipe qui est habituée à jouer ces compétitions internationales comme l'Euro et la Coupe du Monde, et ils vont souvent quand même en phase finale. Mais je pense qu'il faut le dire, dans cette poule, c'est quand même l'adversaire le plus faible.
Bon, voilà, on va pas trop parler de la Pologne puisqu'on attend que les matchs aient lieu match par match. On va pas trop s'avancer. D'abord, France-Pays-Bas et Autriche-Pologne. Peut-être un mot sur les matchs de ce week-end. Demain soir, samedi, la Belgique est déjà au tournant contre la Roumanie après une défaite. Alors, on parle de défaite surprise contre la Slovaquie. Est-ce qu'elle est si surprise que ça, cette défaite, quand on voit aujourd'hui l'effectif de la Belgique avec une défense centrale avec des joueurs peut-être prometteurs, mais relativement faibles par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, par rapport à ce qu'on demande à l'Euro aussi.
Certes, ils sont faibles, mais en même temps, quand on regarde l'effectif de la Slovaquie, on se dit que normalement, ils n'auraient pas dû perdre, parce qu'ils ont quand même de bons joueurs, certes vieux ou vieillissants, avec De Bruyne ou Lukaku, mais il y a aussi de bons de jeunes joueurs qui arrivent comme Doku, mais ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant.
Ouais, je suis encore d'accord avec Merlin. Pour moi, on est sur l'entame d'un nouveau cycle. Et on l'a vu à la Coupe du Monde 2022 où ils sortent dès les phases de poule. Là, il y a en plus Thibaut Courtois qui a fait une finale grandiose en Ligue des Champions. Bon, certes, il a pratiquement pas joué de la saison, mais je pense qu'il est largement dans la hiérarchie et même dans ses qualités bien meilleur que le gardien de Wolfsburg avec une saison qu'il n'a pas pu faire de manière complète. Et puis on voit des cadres vieillissants. Aujourd'hui, dans la Belgique, les joueurs qui vous font peur sont Lukaku, De Bruyne et Doku. C'est que trois joueurs. Et
absolument.
Ces
ouais.
trois joueurs.
Mais Openda qui est toujours là sur le banc.
Oui, il y a Openda aussi,
entrées,
ouais.
comme il l'a fait lors de la défaite, une entrée assez convaincante.
Mais c'est vrai que dans cette poule, normalement, la Belgique devrait faire 9 points. Et c'est plutôt rassurant pour l'équipe de France, puisque le deuxième de notre groupe, bon, ça peut être aussi les Pays-Bas, la Pologne ou l'Autriche, devrait affronter normalement une de ces quatre équipes.
Donc rendez-vous ce samedi à 21h, Belgique-Roumanie. Les deux autres matchs, Géorgie-République tchèque à 15h ce samedi et Turquie-Portugal à 18h. Les Portugais qui voudront confirmer après une victoire bien difficile d'ailleurs contre la République tchèque. Il va être l'heure de conclure cette émission puisqu'on arrive à la fin. Brian Bellardon, Merlin Gravelot, merci.
Merci à toi.
Merci à toi Romain.
À très vite sur notre antenne et comme je l'ai dit, rendez-vous ce soir à 21h pour France-Pays-Bas. Il est l'heure de conclure cette émission, donc c'était la dernière de Sport en Sarthe de la saison. Je tiens évidemment à remercier l'ensemble de nos invités d'avoir pris de leur temps cette année pour venir dans cette émission. Évidemment, merci au département et la direction de communication pour leur confiance dans ce partenariat avec Radio Alpa. Merci particulièrement à Marine Bonardo, notre coordinatrice, pour son apport et son travail pendant 4 ans, qui d'ailleurs part vers de nouveaux horizons. Alors je lui souhaite une très très bonne continuation et beaucoup de chance à venir. Et puis évidemment, c'est un programme que vous pouvez retrouver en podcast sur Radio Alpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.